La revue de presse internationale. Bonjour Camille Magnard.
Bonjour.
Une attaque suicide a visité tôt ce matin une base militaire américaine à Bagram, en Afghanistan. C'est un rappel du bourbier dans lequel les États-Unis sont engagés dans ce pays depuis 18 ans.
Et oui, la guerre en Afghanistan, c'est tout simplement le plus long conflit armé dans l'histoire de l'armée américaine, lancé juste après les attentats du 11 septembre 2001 et sur laquelle le Washington Post a jeté une lumière particulièrement crue en ce début de semaine.
A massive new trove of confidential documents obtained by the Washington Post reveals US officials systematically lied to the American public about the Afghan war.
Virtually les Afghanistan Papers, tels que les décrit ici CNN, ce sont 2000 pages de documents officiels que le Washington Post a réussi, après des années de batailles judiciaires, à faire déclassifier. On y trouve principalement les dépositions de centaines d'officiers militaires qui, tous, à leur niveau, reconnaissent l'ampleur du fiasco américain en Afghanistan, et reconnaissent aussi comment ils ont menti pendant près de 20 ans pour masquer ce fiasco. Cette guerre, elle a fait des dizaines de milliers de morts côté afghan, elle a coûté la vie à 2300 soldats US depuis 2001, mais elle est surtout, selon le titre choisi par le quotidien, une guerre menée contre l'idée même de vérité. On apprend dans les Afghanistan Papers que, depuis les premières années du conflit, l'état-major américain avait des doutes en interne sur le bien fondé de l'intervention, sur ses chances de succès. Très vite est arrivée la conviction que l'Amérique ne pouvait gagner cette guerre, mais elle a été consciencieusement cachée à la population et aux médias, abreuvée pendant des années de statistiques manipulées pour faire apparaître des succès militaires là où il n'y avait que des échecs.
Ce fiasco afghan que révèle donc le Washington Post, il est profond et multidimensionnel.
Oui, tout comme l'enquête qui fera date du journal dont le nom Afghanistan Papers est une référence assumée aux Pentagon Papers du New York Times en 1971 qui avait révélé aux yeux des Américains cette fois l'ampleur du bourbier vietnamien. Le premier échec en Afghanistan, c'est celui de la vérité que les trois présidents successifs, Bush Jr., Obama et Trump, n'ont jamais eu le courage d'assumer face à leur nation. La vérité, c'est que très vite après 2001, les États-Unis n'avaient plus de stratégie, sinon celle de couvrir leur échec en prolongeant cet échec et en l'aggravant encore. Le second fiasco, c'est celui du grand projet affiché de bâtir en Afghanistan les fondements d'une nation nouvelle, moderne, démocratique et apaisée. Les États-Unis y ont englouti 133 milliards de dollars pour un résultat quasi nul, ou même pire, c'est le troisième volet des papers du Washington Post, pour un résultat totalement contre-productif qui a noyé les élites locales sous des sommes d'argent considérables, a alimenté la corruption des chefs de guerre, des groupes criminels et autres cartels de l'opium afghan.
Voilà donc l'envers de la guerre révélé au grand jour par ceux-là même qui l'ont menée et continuent d'ailleurs de la mener, Camille.
Ce sont des mensonges qui nous ont fait rester en Afghanistan et nous y enliser, résume Ross Douta dans le New York Times. Il note surtout, avec deux jours de recul sur ces révélations, à quel point celles-ci suscitent bien peu d'émotion dans la population américaine. Contrairement aux Pentagon Papers qui en 1971 avaient précipité le retrait complet des troupes du Vietnam, en 2019, le constat de la mystification de la guerre faite à la vérité n'émeut plus apparemment les foules qui, il faut bien le dire, sont ces derniers jours aimantées vers le grand théâtre de la procédure en destitution de Donald Trump. Les Américains ont appris à vivre avec des guerres sans fin, se lamente Ross Douta. Sans doute ont-ils aussi perdu leurs illusions sur l'idée même de vérité en politique et en particulier en temps de guerre.
Peut-on juger une icône ? La question est posée depuis hier à la Cour internationale de justice.
Et en l'occurrence, l'icône dont on parle là a depuis longtemps perdu de son lustre. La birmane Aung San Suu Kyi, prix Nobel de la paix en 1991, ancienne figure réprimée de la défense des droits humains face à la junte militaire dans son pays. Et depuis hier, face à la CIJ, la Cour internationale de justice, donc à la haie. Et elle y est pour défendre les atrocités commises par ce même régime qu'elle a si longtemps combattu. Cette contradiction, elle est relevée par de nombreux journaux asiatiques, à commencer par le Straits Times de Singapour. On y lit le récit de la première des trois journées d'audience au cours desquelles la de facto première ministre birmane doit répondre aux accusations de génocide perpétrées contre la minorité musulmane Rohingya. La plainte a été déposée devant la Cour internationale par la Gambie, petit pays africain à forte majorité musulmane, au nom des 57 États membres de l'Organisation de coopération islamique. Hier, face à ses accusateurs et face aux 16 juges, Aung San Suu Kyi n'a pas pris la parole, elle doit le faire aujourd'hui, mais The Guardian retient à quel point elle s'est murée derrière une façade d'impassibilité, notamment au moment où le ministre de la Justice gambien, Aboubakar Tambadou, a exhorté la Birmane à mettre fin d'urgence au génocide.
Every day of inaction means that more people are being killed, more women are being ravaged. and more children are being burnt alive.
Chaque jour d'inaction signifie que plus de personnes sont tuées, plus de femmes sont ravagées, plus d'enfants sont brûlés vifs pour un seul crime, d'être nés d'une autre race, d'une autre religion que celle de ceux qui les violent et qui les tuent. Ces mots, repris par Al Jazeera, n'ont suscité hier aucune réaction visible sur le visage fermé de la dame de Rangoon, impassible également, pendant que l'accusation gambienne citait des rapports d'experts de l'ONU détaillant les exactions dont sont victimes les Rohingyas dans leur région de Rakhine depuis l'été 2017. Aung San Suu Kyi va donc prendre la parole aujourd'hui pour défendre son pays et se défendre elle-même. Tant la question, nous dit The Guardian, est de savoir si elle était au courant de l'ampleur de ses crimes, si elle les a couverts ou a tenté de s'y opposer. Ce qui est sûr, à croire la BBC, c'est que la dirigeante bénéficie toujours chez elle d'un soutien populaire très fort, nourri par un déni farouche. S'il y avait vraiment un génocide, alors les Rohingyas n'auraient tout simplement pas pu fuir. Voilà ce qu'explique très calmement à la BBC une supporter de celle qu'elle surnomme Maman Sou dans une manifestation qui était organisée hier dans la ville birmane de Yangon.
Merci Camille Magnari.